5 ans déjà que je vous retrouve sur Radio MDM et que vous êtes fidèle à 15 on the Rock, la seule émission en France qui vous propose de se souvenir de ce qui a fait le hard et le vrai rock pour les 15 années de gloire de ce style entre 1968 et 1983. Aujourd'hui, on va se pencher sur de l'exclusivement britannique et sur la nouvelle vague que l'on a appelée The New Wave of British Heavy Metal, ou pour les experts, l'acronyme, je vous le fais en français, NWOBHM. À la fin des années 70, les punks sont au sommet dans une Angleterre essoufflée, rongée par une terrible augmentation du chômage. Les punks ont succédé aux mods. Ils ont secoué les assises du glam rock et son côté commercial. Les rockers purs et durs sont frappés de plein fouet par cette vague punk et la révolte ne tarde pas. C'est Lemmy de Motorhead qui la lance avec son premier album sans concession de pur hard qui sort en 77. Les groupes britanniques à venir vont, à la suite de Lemmy, rejeter le punk, mais s'en inspirer quand même pour monter sur scène en faisant le plus de bruit possible. C'est donc la New Wave of British Heavy Metal avec Tigers of Pantang, Def Leppard, Diamond Head, Saxon ou encore Iron Maiden. Leur credo, c'est un son lourd, des guitares ultra rapides et des paroles renvoyant à la peur et à l'inconscient collectif anglais, mais également aux films d'horreur. L'un de ces groupes qui existe déjà depuis 1974, avec des succès précoces, mais qui s'affiche en leader du revival heavy metal, c'est Judas Priest. Leur 7e album, British Steel, est l'un des étendards de ce mouvement. Le ton est donné dès le titre d'ouverture de ce disque, c'est Rapid Fire, la nouvelle vague du hard anglais, donc Judas Priest en 1980, avec l'album British Steel et le très bon Rapid Fire. Chopping away at Si Judas Priest, avec cet album, incarne l'idée même que le grand public se fait alors du heavy metal, un autre groupe émerge en 1980 dans cette Angleterre thatchérienne minée par l'ennui. C'est Tigers of Pantang. La bande a d'abord sorti quelques singles, tourne beaucoup et attire l'attention de MCA qui les signe pour leur premier vinyle. Et c'est alors, en 1980, la publication de Wildcat, album qui méduse la critique par sa puissance, les prouesses vocales et musicales du chanteur John Cox et du lead guitar Rob Ware. Tigers of Pantang, à l'époque, revendique l'héritage de Motorhead ou de Thin Lizzy. Le second guitariste des Tigers, John Sykes d'ailleurs, rejoindra Thin Lizzy en 1983 pour leur ultime 33 tours et leur dernière tournée. On revient sur Wildcat, sorti en 1981 de Tigers of Pantang, œuvre sans temps mort, très spontanée, construite sur des riffs solides et des thèmes percutants. Écoutez le thème d'ouverture de ce disque, c'est Euthanasia qui a d'emblée convaincu le public. Cet album est produit par Chris Tsangarid, qui travaille aussi dans ses années pour Thin Lizzy, Judas Priest ou Gary Moore. Ce disque atteint directement la 18e place des charts. Un critique britannique a alors écrit, je cite, « Ce disque est un classique de metal pour les bikers qui a le charme qu'on attend d'une bande de gamins qui mettent toute leur énergie à se faire un nom sur scène. » C'est exactement l'esprit de ce groupe, Tiger of Pantang. Je vous propose un second titre de Wildcat. Il s'agit de Slaves to Freedom, 6 minutes de pur hard britannique.
Show me the show.
vous êtes sur Radio MDM, c'est François au micro pour 15 on the Rock. La bande la plus marquante de la New Wave of British Metal est bien sûr et comme toujours quasiment inconnue en France. Des rockers absolument vénérés de Megadeth et surtout de Metallica, ce sont les Diamond Head. Une réunion d'ados originaires des West Midlands en Angleterre qui vont enregistrer en 79 l'album mythique Lightning to the Nations, désormais connu des fans de Hard, entre guillemets, comme l'album blanc. Alors pourquoi l'album blanc ? Eh bien parce que Diamond Head et Fauché a signé sur un tout petit label, Happy Face, et qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un designer de pochette. Celle-ci ne sera donc qu'une page blanche avec les quatre signatures des membres du groupe. Le disque est finalement publié en 80 et il devient culte au fil des années. Au départ, faute de moyens, il n'est pressé qu'à 1000 exemplaires dont beaucoup sont envoyés à la presse. Et c'est le magazine anglais Sounds qui les détecte et commence à faire leur publicité. La musique puise aux sources de Led Zeppelin, notamment pour le chant, ou de Black Sabbath pour les riffs. Ses influences sont flagrantes sur le morceau d'ouverture de l'album blanc. C'est le thème Lightning to the Nations qui fait découvrir Diamond Head. Nous sommes à l'aube des années 80 et je vous fais entendre aujourd'hui les créateurs de ce qui fut la New Wave of British Heavy Metal. We'll be right back. rejoignez, surtout ne bougez pas, vous êtes sur Radio MDM pour Fifteen on the Rock, le meilleur du rock et du hard entre 1968 et 1983. Lars Ulrich, le fondateur de Metallica, a toujours déclaré au public que c'est l'album de Diamond Head qu'il avait confirmé dans sa vocation de rocker. Et le groupe s'est formé, ex nihilo, donc Metallica, quand Ulrich publie une petite annonce pour former une bande et aller faire un buff avec ses idoles sur scène Diamond Head. Le morceau phare de ce premier 33 tours de Diamond Head est sans aucun doute Am I Evil. La référence à Black Sabbath y est évidente. Metallica adorera le thème et l'enregistrera en 1984. Am I Evil prend alors une dimension planétaire. Il a été écrit par le chanteur de Diamond Head, Sean Harris, et le guitariste Brian Tetler. Ce dernier a récemment déclaré que cela faisait 3 décennies qu'il ne vivait pratiquement que des royalties de cette composition, reprise donc par Metallica. Allez, on se le passe. Am I Evil, un morceau désormais aussi célèbre que Paranoid de Black Sabbath ou que Black Knight de Deep Purple, célèbre partout sur la planète, sauf bien sûr chaque fois que c'est bon, en France.
I'm not the one to win.
L'un des créateurs du rock moderne des années 80, ce sont également les Anglais de Sheffield, Def Leppard, qui, dans ces années, a réussi à vendre plus de 30 millions de disques. Def Leppard vient initialement du mot Def Leopard, c'est-à-dire le léopard sourd. C'était une affiche de design du fondateur du groupe, le chanteur Joe Elliott, qui faisait initialement des études en art plastique. Alors la bande naît en 76 et enregistre en 78 un petit EP de 3 titres seulement qui n'est gravé qu'à 150 exemplaires et dont la pochette est bien sûr ce fameux léopard. Ensuite, le groupe change de batteur, recrute un gamin de 15 ans puis entre en studio en 79 pour le géant de la production Vertigo. Le vinyle en Through the Night sort finalement en mars 1980 et c'est le manager américain Peter Mensch qui prend le groupe en compte. Plus tard, ce même manager devient celui de Metallica, vous voyez toute la filiation. 1980, donc, nous sommes en plein boom de la British Wave of Heavy Metal, les premières notes d'une légende naissante, Def Leppard avec le hit Wasted.
Bottle of whiskey lies heavy obstructing.
L'album qu'on vient de découvrir, appuyé par une tournée mondiale en première partie de Pat Travers, propulse Def Leppard à la 15e place des charts britanniques. Bons commerciaux, ces jeunes Anglais vont alors faire appel au producteur d'AC/DC, Robert Lange, pour faire leurs 33 tours suivants. Ce disque est enregistré en 3 mois seulement et leur offre un succès américain immédiat, puisque dès sa parution en 81, il se vend aux États-Unis à plus de 2 millions d'exemplaires. Mais Def Leppard est aussi connu pour une particularité. Son batteur, Rick Allen, le 31 décembre 84, est victime d'un très grave accident de la route dans lequel il perd son bras gauche à seulement 19 ans. Le gamin, c'est bien évident, veut continuer dans le rock et réussit son coup en construisant une batterie adaptée à son handicap. Et à force de travail, il parvient à faire oublier dans les enregistrements et même sur scène son handicap. Allez, on se fait un second Def Leppard, extrait de High and Dry de 1981. C'est à mon avis le titre phare de cet album qu'on va écouter. Le thème est intitulé « Let it go ». We'll be right back. Et puis pour finir cette heure de 15 on the Rock, évoquons à présent Iron Maiden, le groupe par excellence des années 80. Le groupe né à Londres en 76, à l'initiative de celui qui est sans contestation son leader, le bassiste et compositeur Steve Harris. Iron Maiden, la Vierge de Fer, est un instrument de torture du Moyen-Âge, vous voyez tout de suite l'ambiance. Le groupe commence à se faire une réputation en écumant toutes les scènes possibles du Royaume-Uni et joue souvent dans des pubs devant simplement une dizaine de personnes. À l'époque, il n'y a pas l'emphase qui va arriver plus tard, mais tout simplement une énergie de quasi-ado. Après les années de vache maigre, Iron Maiden signe en 79 chez EMI et publie l'année suivante le très bon album éponyme Iron Maiden. À 81, ce sera Killers, avec un rock très accéléré, l'usage des twin guitars et des riffs suraigus qui feront de la bande l'un des fers de lance de la New Wave of British Metal. On se fait un extrait de Killers, enregistré en décembre 80 et qui atteint la 12e place des charts britanniques. Ce disque continue à se vendre aujourd'hui encore à des millions d'exemplaires dans le monde. Le titre que j'ai choisi pour vous, c'est Drifter, qui conclut ce vinyle. Yeah. Iron Maiden, c'est toute une scénographie, une vraie liturgie créée par un graphiste dédié, Derek Riggs, avec cette horrible mascotte que vous connaissez forcément, l'hideux Eddie. Avec la technicité des musiciens, les rythmes frénétiques, mais les inspirations revendiquées dans le rock psyché, chez Yes, Genesis et Jethro Tull, que Steve Harris adule, le succès est parti pour des décennies et s'ancre surtout avec le célèbre The Number of the Beast, publié en 1982. Un disque qui est le premier du groupe à atteindre la première place des ventes en Angleterre cette année-là. Et puis, en bonus, comme il nous reste un peu de temps, vous aurez enchaîné un morceau du groupe Saxon, 747, enregistré en 1980. Saxon, qui appartient à ce courant musical et avec qui nous concluons notre émission aujourd'hui. Voilà, c'était François au micro. Nous ouvrions pour cette semaine la cinquième année de 15 on the Rock. J'étais assisté à la technique de Arnaud, que je remercie. Restez rock, écoutez 15. Salut les amis.
Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were they reflections of my walkman staring back at me?